Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr. Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Ravi de vous retrouver cette semaine. Vous pouvez également retrouver Conflit en kiosque avec notre dossier qui est consacré au terrorisme. Dossier que vous pouvez acquérir en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. Site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner. Et en vous abonnant, vous permettez à Conflit de se développer et de vous proposer également ses contenus en libre accès comme ses podcasts. En vous abonnant, vous nous soutenez et c'est la meilleure manière de permettre à Conflit de continuer à se développer. Alors nous allons cette semaine évoquer la question de l'arme nucléaire, qui est un sujet ô combien important puisqu'il a irrigué l'ensemble de la réflexion des relations internationales, de l'ensemble de la réflexion de la stratégie militaire dans la deuxième partie du XXe siècle, au moins depuis 1945. On parle encore aujourd'hui de la bombe atomique, mais de manière différente de ce que l'on en parlait dans les années 1950-1970. Et c'est donc ces évolutions que l'on va aborder avec mon invité cette semaine, Jean-Marc Lepage. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité.
Vous êtes professeur agrégé en histoire et docteur en histoire également. Vous êtes rattaché à l'université Rennes 2. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur les questions militaires et notamment cet ouvrage qui vient de paraître aux éditions Passé Composé, La bombe atomique de Hiroshima à Trump, qui est une excellente synthèse de ces 70 ans d'histoire quasiment depuis la Seconde Guerre mondiale où vous reprenez les chapitres les uns après les autres et vous montrez l'importance qu'a eu l'arme nucléaire dans l'histoire des relations internationales et l'histoire de la diplomatie. Alors, il y a évidemment un paradoxe qui n'est peut-être qu'apparent sur la question de la bombe atomique, c'est que on en parle beaucoup, on en a très peur, pour autant elle n'a été utilisée qu'une seule fois. Et est-ce que finalement, cette fois-là où elle a été utilisée, ça n'a pas annihilé complètement les choses? C'est-à-dire que face à la puissance de destruction de cette arme, ça n'a pas de facto engendré une dissuasion en se disant on ne peut quand même pas utiliser une arme aussi puissante, d'autant que par la suite, les nouvelles bombes ont été beaucoup plus puissantes que celles d'Hiroshima et de Nagasaki.
Oui, effectivement, je pense que vous avez tout à fait raison. Alors, c'est particulièrement vrai pour le pouvoir politique. Donc, effectivement, 6 août et 9 août 1945, le président Harry Truman décide d'utiliser la bombe contre le Japon. Et très rapidement, il semble que pour Truman et l'administration de Washington, cette arme va avoir une portée, une symbolique politique extrêmement forte. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque elle est à nouveau évoquée, lorsque l'utilisation de cette arme est à nouveau évoquée à l'occasion de la guerre de Corée. Je rappelle rapidement le contexte. Donc, nous sommes le 28 juin 1950, la Corée du Nord bouscule l'armée sud-coréenne et les forces américaines, sous mandat de l'ONU, viennent porter main forte au gouvernement sud-coréen. À la tête de cette coalition, vous avez le général MacArthur. Le général MacArthur, très rapidement, va quand même demander la possibilité d'utiliser cette arme, en particulier au mois de novembre 1950, lorsque les forces de l'ONU sont totalement bousculées et renversées par l'armée chinoise. Et ici, on a ce moment qui, à mon sens, qui est véritablement un moment clé dans cette histoire de la bombe, puisqu'on a un général auréolé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, etc., qui est une personnalité extrêmement forte, qui souhaite utiliser cette bombe atomique, puisque pour lui, comme un certain nombre de militaires, cette bombe est finalement une super bombe qu'on pourrait utiliser de manière conventionnelle. Vous avez une levée de bouclier de l'administration, et en particulier de Harry Truman. Ce qui me permet de le dire de manière un peu plus forte, c'est qu'en décembre 1950, au 1er décembre, si je ne dis pas de bêtises, on a une conférence de presse durant laquelle Truman, bousculé un petit peu par les journalistes et les questions qui lui sont posées, va avoir une réponse un petit peu ambiguë. La question, c'est « Est-ce que vous allez utiliser la bombe ?» Et lui dire, hein, je ne cite pas, hein, mais c'est l'esprit, « Oui, peut-être, etc. » Et là, on a véritablement, que je parle de levée de bouclier, on en a véritablement une de la part des alliés américains, des alliés occidentaux, français et britanniques en particulier, une levée de bouclier des pays dits du tiers-monde à ce moment-là, enfin même le tiers-monde n'existe pas encore, mais enfin bon, voilà, des pays nouvellement indépendants, et je pense à l'Inde. Et là, clairement, on a ce que je développe un petit peu plus dans le livre, hein, cette idée du no-news, c'est-à-dire, ou même la cristallisation, ce qu'on va appeler le tabou, c'est-à-dire que c'est une arme qu'on ne peut pas utiliser. Et donc, effectivement, est-ce que de facto, on est ici sur une histoire de dissuasion? Oui, d'une certaine manière. Mais en tout cas, d'une certaine manière. Mais on est également dans un moment où c'est clairement devenu une arme politique. Et décembre 1950 est en ce sens extrêmement, extrêmement important. Dans le même temps, ça reste effectivement une arme de dissuasion. Oui, vous avez raison, dans le sens où là, je reprends encore la guerre de Corée et juin 1950, lorsque des bombardiers B-29 sont prépositionnés d'une certaine manière à Guam ou ailleurs, mais déjà dès 1948, Truman a utilisé cet outil, entre guillemets, en prépositionnant là encore des B-29 avec des bombes non montées, hein, qui ne sont pas utilisables, en Angleterre, enfin au Royaume-Uni, au moment de la crise de Berlin. Donc, si je vais un tout petit peu plus loin sur cette idée-là, c'est que c'est une arme politique. Pour les militaires, ça n'est pas encore tout à fait le cas. On a clairement ici un général MacArthur que j'évoquais tout de suite. On voit bien l'amiral Radford également, hein, qui s'occupera, hein, des forces, hein, d'Asie du Sud-Est, hein, en particulier pendant la guerre d'Indochine durant les années 50, qui lui non plus n'est pas encore tout à fait, hein, dans cette optique-là. Et de même manière que sous Eisenhower, on a cette politique du New Look qui veut qu'on puisse utiliser l'arme nucléaire. Mais donc on est encore un peu sur ce hiatus, d'une certaine manière, entre une administration, Truman en particulier, pour qui l'arme nucléaire est une arme politique, des militaires américains qui sont encore sur une forme d'entre-deux, qui poussent à son éventuelle utilisation comme une super bombe, une super bombe.
À manier avec prudence.
Et à utiliser évidemment avec prudence. Mmh. Mais on est un petit peu sur cette dimension au début des années 50.
Ce qui est quand même très curieux, d'avoir une arme dont on ne se sert pas, dont on dit qu'on ne s'en sert pas, mais qu'il faut malgré tout posséder et dont il faut laisser croire ou de laisser rendre possible le fait qu'on puisse s'en servir. Donc on est toujours vraiment sur le fil du rasoir.
Exactement. Alors on ne dit pas qu'on ne s'en sert pas. On va dire on ne s'en sert pas en premier. Là, on a toute la question tourne autour justement de quand est-ce qu'on pourrait éventuellement s'en servir. L'idée, c'est de dire si vous allez trop loin, on n'hésitera pas à utiliser l'arme nucléaire. Et dans ce cas-là, il faut avoir une posture, et une posture qui est suffisamment convaincante pour que l'adversaire ne le fasse pas. C'est tout à fait la logique, hein, qu'on a sur le détroit de Formose. Là encore, les grosses crises, hein, qu'on a entre la Chine communiste et la Chine nationaliste, où les États-Unis, hein, se posent déjà en bouclier, on va dire, hein, de cette Chine nationaliste et de Taïwan, où là, Eisenhower, déploie la flotte face à la Chine pour bien montrer que c'est du sérieux et qu'on ne va pas s'en laisser compter par Mao. Mais là encore, comme souvent, hein, c'est la posture. Après, est-ce qu'on a la volonté de l'utiliser? Non. Le tout est d'être suffisamment convaincant pour ne pas avoir à l'utiliser. Mais tout en disant, systématiquement, on est prêt à le faire. Et c'est de toute façon la logique de notre posture de dissuasion jusqu'à nos jours. Clairement, on n'utilise pas, on ne dépense pas des sommes extrêmement folles dans un armement dont on va dire devant la presse entière et le monde qu'on ne l'utilisera pas. Non, non, on est prêt à l'utiliser, mais seulement si.
Et la difficulté est justement de définir la ligne rouge, parce qu'il faut qu'elle soit suffisamment loin pour qu'on ne l'utilise pas, mais suffisamment proche pour qu'on puisse malgré tout l'utiliser, et il faut que si jamais un jour elle est franchie, on l'utilise réellement. On ne peut pas fixer une ligne rouge et ne pas la respecter lorsque celle-ci est franchie. Donc Est-ce qu'on n'est pas finalement avec cette arme nucléaire davantage dans le domaine de la diplomatie, davantage dans le domaine de l'intoxication que dans le domaine strictement militaire?
C'est une arme diplomatique et politique par définition, avec une implication militaire derrière. Alors effectivement, la définition de la ligne rouge, elle est extrêmement... D'un certain côté, elle est simple, puisque c'est en gros, c'est si les intérêts vitaux de la nation sont mis en jeu, nous l'utiliserons. Et tous les États, enfin pas tous les États, mais beaucoup des États dotés, hein, les États nucléaires, ont défini quelles étaient un petit peu ces lignes rouges. Tous ne l'ont pas fait de manière extrêmement claire, mais enfin globalement, on est à peu près clair là-dessus. Mais après, voilà, vous l'avez dit, c'est une ligne de crête. Où est-ce qu'on... Cette ligne rouge, elle est plus ou moins claire. Alors évidemment, si les intérêts vitaux de la nation, une offensive massive contre l'Inde, par exemple, était menée par le Pakistan, on n'y croit pas, là, c'est l'idée. Oui, l'Inde pourrait utiliser cette arme nucléaire de la même manière que si les États-Unis, etc. Après, on a malgré tout autour de ces lignes rouges, certainement, une ligne qui est plus ou moins profonde. Je pense sur un événement extrêmement récent, là, et ça fait penser au programme de spécialité. Quand on parle des porte-avions, etc., dans le thème 1, le porte-avions est une arme, enfin voilà, est une arme politique également, qui a arme de projection, etc. Dans un éventuel conflit entre les États-Unis et la République populaire de Chine autour de Taïwan, comment réagiraient les États-Unis si un de leurs porte-avions était coulé? Là, on a une question de ligne rouge. Est-ce que c'en est une, puisque les intérêts vitaux, d'une certaine manière, pourraient être touchés face à l'opinion publique? Est-ce que les États-Unis, à partir de là, pourraient utiliser un armement nucléaire? C'est quand même des choses extrêmement compliquées, mais de toute manière, ce qu'il faut bien avoir en tête, je pense, et ça c'est mon opinion, c'est que cette arme nucléaire est essentiellement une arme politique, oui. Et les militaires n'ont pas la main sur cette arme, ce qui montre bien d'ailleurs quelle est sa vocation première de nos jours.
C'est une arme nucléaire qui a aussi beaucoup évolué depuis Hiroshima et Nagasaki. D'abord, elle est plus puissante, et même d'un point de vue technique, c'est plus tout à fait la même chose.
Ah non, 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 effectivement, elle est plus puissante, elle a été miniaturisée, bon, les vecteurs sont également ont été considérablement modifiés. Oui, il y a une évolution technologique de cette arme, hein, qui la rend d'autant plus dangereuse, effectivement, oui.
Alors, il y a un cas que vous évoquez dans votre ouvrage, c'est celui de la guerre d'Indochine, donc avec la France, où l'armée française, notamment lors de Dien Bien Phu, a envisagé là aussi la possibilité de faire usage de cette arme. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais en tout cas, l'armée française y a aussi pensé.
Ah oui, alors non, enfin oui et non. L'armée française, le général Navarre qui dirige les opérations en Indochine à ce moment-là, n'envisageait pas du tout. Alors, ce qui a été envisagé, hein, c'est un bombardement de l'arrière, hein, des troupes populaires, hein, du Viet Minh, pour faire simple. Alors c'est vrai qu'on a toute cette histoire autour de la bombe atomique et Dien Bien Phu, puisque c'est John Foster Dulles, hein, qui était secrétaire d'État, qui aurait proposé. Le conditionnel est malgré tout de mise, parce que lui-même a toujours nié avoir fait cette proposition, qui aurait proposé à Georges Bidault, ministre des Affaires étrangères français, de lui donner deux bombes atomiques pour justement desserrer l'étau sur Dien Bien Phu. Ça n'a jamais été plus loin qu'une proposition. Si ce n'est que, malgré tout, on a eu aux États-Unis en particulier, hein, comment dire, des manœuvres. Hein, l'hypothèse a été travaillée. En théorie, et a priori d'ailleurs, c'était plutôt l'utilisation de trois bombes qui aurait été mise en œuvre. En Indochine en l'occurrence, on a préparé quelque chose, mais qui n'avait rien à voir avec la bombe atomique. C'est-à-dire qu'on a préparé le plan Vautour, qui était le nom de code de cette opération, qui prévoyait des bombardements massifs sur les arrières du Viet Minh. Mais bon, c'est vraiment. Une proposition qui a été lancée. Alors moi, je fais l'hypothèse, hein, que c'était là encore un message à destination, hein, de la Chine et de l'Union soviétique, qui étaient les soutiens indéfectibles, et la Chine d'abord, de la République démocratique du Vietnam. Donc plus là encore, hein, quelque chose de politique plus que militaire. Et d'ailleurs, hein, il semblerait que, enfin, c'est pas il semblerait, l'utilisation de ces bombes n'aurait strictement rien changé ou pas changé grand-chose à la situation du camp retranché du fait de la morphologie du terrain autour de Diemien Phu. C'est-à-dire qu'utiliser des bombes atomiques dans des vallées, c'est extrêmement compliqué, ça limite considérablement la portée de cette arme. C'est d'ailleurs le problème, les problématiques qu'il y avait en Corée, d'ailleurs en Corée du Nord, du fait du paysage qui ne permet pas une utilisation optimale de la puissance de ces armes.
Et puis en 1954, la France ne possède pas encore par elle-même l'arme nucléaire. Ça aussi, ça a été un enjeu, alors pour la France, mais pour l'ensemble des pays qui ont possédé l'arme, cet enjeu de posséder l'arme nucléaire, d'entrer dans le cercle fermé de ceux qui ont l'arme. Et donc ensuite, ce que l'on a appelé la prolifération et les décrets, les traités qui ont essayé de mettre un terme à cette prolifération.
Ah oui, effectivement. Alors, posséder l'arme nucléaire, c'est rentrer dans le club. Clairement, Donc il faut attendre 1960 pour que la France fasse son premier essai à Reagan en Algérie. Le programme nucléaire français date assez rapidement, finalement, après la Seconde Guerre mondiale. Il est véritablement lancé sous la 4e République, autour de l'affaire de Suez en particulier, repris par le général de Gaulle. Mais enfin, clairement, ici, on a une continuité de la République entre la 4e et la 5e, et c'est clairement effectivement un facteur de puissance. Outre également ce facteur ici de dissuasion. Et après, cette prolifération, oui, se met tranquillement, entre guillemets, en route. La Chine, ensuite, en 1964, et quand même rapidement, on se rend compte que il faut quand même peut-être éviter que ces armes ne deviennent trop courantes. Et on a le TNP, le traité de non-prolifération de 1968, mais qui fait suite, il ne faut pas l'oublier non plus, au Test Ban Treaty de 1963, qui a interdit les essais nucléaires, qui est le premier traité véritablement mis en œuvre et signé par l'Union soviétique, les États-Unis et la Grande-Bretagne. 1963, la France refuse d'entrer dans le traité. La Chine, en 64, de toute façon, arrive un tout petit peu plus tard, mais elle ne rentrera pas dedans. Et ce qui peut être intéressant également de voir par rapport à cette régulation de l'arme nucléaire, c'est que le traité est signé en 1963, mais les prémices sont en 1958. On a une histoire quand même relativement longue de cet essai de régulation quand même de cette arme. Et d'ailleurs, 1958, c'est l'initiative de Nikita Khrouchtchev. Et après, vous avez toutes les histoires, entre guillemets, entre Berlin et Cuba qui font que on a un petit peu, on a une parenthèse assez importante entre le début des négociations et la signature du traité en 63 et ensuite la continuité avec le traité de 1968. Mais effectivement, et en 68, le traité est clair, il y a 5 puissances nucléaires qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité et on fait tout, on fait tout. Pas vraiment. Mais on essaye de limiter autant que possible cette prolifération. Parce qu'on a bien pris conscience quand même des risques que cette arme pouvait entraîner si elle était entre de mauvaises mains. Parce que l'idée étant véritablement celle-là.
Il faut qu'elle reste entre les mains de gentlemen ou de gens qui sont prêts à discuter.
Ce qui ne... Exactement.
Alors, il y a le cas de la crise des missiles de Cuba, 1962. Là, la ligne rouge, elle n'a pas été complètement franchie puisqu'elle n'a pas été utilisée, cette arme. Enfin, on n'est quand même pas très loin. Et quand l'Union soviétique transforme Cuba en porte-avions nucléaires rivés sur les États-Unis, le bras de fer est extrêmement tendu.
Oui, alors, avec ce bémol, là, c'est ma conviction, aucun des deux ne souhaitait l'utiliser. Là aussi, lorsque Nikita Khrouchtchev, effectivement, en 1962, en avril, décide de déplacer ses armes nucléaires sur le sol cubain, c'est dans l'optique de faire ce que les Américains ont fait eux-mêmes en Turquie, lorsqu'ils installent des missiles Jupiter en Turquie. On a un bras de fer, oui, qui est diplomatique, avec cette ligne rouge qui ne sera pas franchie, parce qu'aucun des deux ne le souhaite, ni Khrouchtchev, ni Kennedy. Alors après, effectivement, on a cette question de « ça aurait pu déraper ». Oui, c'est vrai que ça aurait pu déraper, clairement. Mais d'aucuns vous disent que justement, les incidents ont été quand même assez nombreux. Évidemment, le U2 qui a abattu le Major Anderson lors du Black Saturday, le samedi noir, du 27 octobre, hein, si j'ai pas de bêtises. On a également cet épisode, le même jour, hein, de ce sous-marin russe qui est prêt à armer sa torpille atomique pour aller frapper un porte-avions américain. On a également le même jour, hein, on a des coïncidences extrêmement fortes ici, où des avions soviétiques s'approchent hein, d'un U-2 américain qui lui-même va être protégé par des chasseurs américains équipés d'armes nucléaires. Enfin voilà, on a tout un contexte, effectivement. Ça bouge énormément, des incidents radars, etc. Mais et d'aucuns disent que, voilà, ça aurait pu déraper, on n'était pas à l'abri d'un accident qui aurait pu entraîner un enchaînement. Je suis plutôt optimiste, moi ce que je vois, c'est que ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que même l'affaire de Anderson, qui est quand même le moment clé, je pense, hein, plus que le sous-marin, tout le monde a ignoré ce qui s'est passé ce jour-là. Par contre, autour de la destruction de U-2 américain, les faucons, entre guillemets, de l'équipe de Kennedy, de l'ex-com, poussaient à envahir, hein, du moins, ou à répliquer à l'Union soviétique, enfin, à cette attaque soviétique, et Kennedy a mis le haut là. Et très rapidement, finalement, la question diplomatique, enfin, le politique a repris la main. Donc, est-ce que, au moment de cette affaire de Cuba, on a été à deux doigts de la Troisième Guerre mondiale, comme on a pu très très souvent le dire, et où on le voit quand même très très souvent? Franchement, du fait que les deux chefs politiques y étaient opposés, non, je ne suis pas tout à fait sur cette ligne-là.
Sur la question de la bombe atomique, on a l'impression qu'il y a quatre acteurs finalement. Il y a le militaire, le politique, il y a également l'opinion publique, la presse qui commente, qui analyse, et puis tous les films, science-fiction qui contribuent aussi à donner une ambiance de peur autour de la bombe atomique et donc de renforcer sa puissance. Et puis il y a le scientifique, parce que notamment dans la concurrence entre URSS et États-Unis, il faut que les industries, les ingénieurs en chimie nucléaire et en physique nucléaire soient capables d'améliorer sans arrêt leurs bombes. Et donc ça suppose de l'espionnage, ça suppose également une compétition dans ce domaine scientifique.
Oui, les deux, effectivement, si vous me passez l'expression, se marquent un petit peu à la culotte, hein, à ce niveau-là. À la question de l'espionnage atomique. C'est particulièrement vrai, et la question est particulièrement sensible au début de l'aventure nucléaire et lorsque l'Union soviétique va se doter elle-même de la bombe en 1949. On a souvent entendu dire que c'est grâce aux espions atomiques, hein, les Klaus Fuchs, etc., même les Rosenberg, hein, qui étaient dans cette mouvance, hein, qui travaillait pour le NKVD, aurait permis à l'Union soviétique de gagner plusieurs années dans leur recherche. Alors, il semblerait quand même, malgré tout, que non, ils n'ont pas permis. Cet espionnage atomique n'a pas permis à l'Union soviétique de gagner plusieurs années. Ce qui nous a détourné, qui a donné cette opinion-là, ce sont les propos en fait du général Groves. General Groves était le patron, hein, du programme, du projet Manhattan. Et c'est lui qui a dit à un moment, enfin en 1945-46, que l'Union soviétique avait 15 ans de retard sur les États-Unis, sur leur recherche nucléaire. Et évidemment, lorsqu'en 1949, les soviétiques font sauter leurs bombes, il faut bien trouver une explication, puisque ça n'a été finalement que 4 ans plus tard, que 4 ans après les Américains, et non pas 15 ans comme le disait Groves. Il a fallu trouver une explication, et cette explication a été toute trouvée justement avec l'espionnage atomique. En fait, ce qu'il ressort des archives, etc., c'est que ça leur a permis de gagner un petit peu de temps, évidemment, en particulier pour valider des hypothèses. C'est-à-dire, mais ça n'a pas permis de gagner une décennie. Non, les scientifiques soviétiques sont de très haut niveau, et c'est ces scientifiques soviétiques, hein, bon, je pense à Sakharov, mais Sakharov c'est plus pour la bombe H, hein, en 1954 pour les soviétiques, si je n'ai pas de bêtises là encore. Et donc, ça leur a permis de valider des hypothèses, mais non pas forcément d'aller aussi vite que ça et de rattraper un retard qui était abyssal. Alors, ensuite, la science soviétique est quand même extrêmement extrêmement avancée hein, pendant l'Union soviétique. Enfin, les physiciens sont de très très haut niveau. Et oui, on a une compétition entre les deux, une compétition sur la puissance, passer de l'atomique à l'hydrogène. Ensuite, sur les vecteurs, qui est un élément ici fondamental, la conquête spatiale joue son rôle, évidemment, puisque lorsque vous lancez un satellite dans l'espace, vous êtes capable de lancer un satellite, enfin une arme nucléaire. Soit dit en passant, c'est exactement ce que font les Nord-Coréens, d'ailleurs, lorsqu'ils font des essais spatiaux. Donc, on a une concurrence, effectivement, qui va se mettre en branle à partir des années 50, avec voilà, le plus de moyens et les moyens les plus avancés. Et à ce jeu, quand même, malgré tout, les Américains, ils mettent peut-être plus d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, ont une plus grande efficacité en termes de vecteurs, en termes de précision et de miniaturisation de leurs armes, semble-t-il.
Alors, l'arme nucléaire, c'est la grande épopée de la guerre froide. Dans les années 1980, là, en revanche, on voit plusieurs traités qui sont signés d'un côté pour arrêter la prolifération, mais aussi pour réduire l'arsenal nucléaire. Et ça a notamment été les traités entre Reagan et Gorbatchev. Et là, ça a été, on peut le dire, quand même un élément important, une évolution dans cet usage de l'arme nucléaire.
Alors, ces traités de limitation, alors on les trouve. Alors, c'est SALT hein, en 1972. Après, on a les traités autour de SALT II en 1979 et START hein, essentiellement. Ben là, START, c'est 1991, si je ne dis pas de bêtises encore, entre George Bush et Mikhail Gorbatchev, 1990. Le tournant, c'est quand même 1985 à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a cette période des années 70 avec SALT où on est vraiment sur la détente. Hein, 1975, c'est Helsinki, c'est la rencontre Soyouz-Apollo, où on essaye effectivement de limiter hein, autant que possible le nombre d'armes nucléaires. Mais là aussi, avec un faux-semblant magnifique quand même, c'est-à-dire qu'on va limiter le nombre de vecteurs, mais on ne limite pas le nombre de têtes. Et comme à partir du début des années 70, on MIRV, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs têtes sur un seul missile, bon, finalement, on arrive à un jeu à somme assez nul. Hein. Donc, on est sur cette période de détente. Après, on voit bien, enfin, jusqu'en 75, le souci, c'est que dans ce contexte de guerre froide, l'Union soviétique bah, profite hein, du trou hein, laissé par les États-Unis. On a un appel d'air, puisque les États-Unis se retirent un petit peu des affaires du monde. Hein, c'est le contexte de la guerre du Vietnam, enfin, Watergate, etc. Et donc, les États-Unis, l'URSS en profite pour revenir. Ensuite, ça débouche hein, sur... le retour de Reagan et America is back, où là, au contraire, on a un renouveau de cette guerre froide, hein, puisque c'est la période qu'on appelle ici la guerre fraîche. Cette année 83, qui est quand même extrêmement, extrêmement dure, c'est au début des années 80 qu'on a le maximum hein, de ces armes nucléaires. Donc, on a beau avoir eu SALT 1 et SALT 2, bon, ça n'a pas eu les résultats escomptés. Et 1983 est véritablement, à ce niveau, ici, un tournant. Et un tournant en particulier pour ce qui est assez intéressant pour Reagan. Et ce que je développe un tout petit peu dans le livre, c'est l'impact qu'a pu avoir un livre, enfin pas un livre, pardon, un film, un téléfilm, le The Day After, hein, le jour d'après, où ce téléfilm montre les conséquences d'une attaque nucléaire sur les États-Unis, Kansas City en particulier. Et Ronald Reagan l'a vu ce film, comme plus de 100 millions d'Américains. Et il se trouve que quelques temps au même moment, ses conseillers militaires, enfin les officiers du Pentagone, lui ont présenté les plans d'attaque des États-Unis contre l'Union soviétique avec les estimations. Où là, les estimations de pertes soviétiques hein, se comptaient en dizaines de millions de morts. Et Reagan, finalement, est sorti de la salle en disant qu'il fallait être cinglé pour faire de tels calculs, etc. 1983 est donc un moment... Et on voit bien que on a Aberrature, ces manœuvres de l'OTAN en Allemagne de l'Ouest, où les Soviétiques pensent qu'il va y avoir une attaque américaine. Enfin, là, on a quelque chose qui se cristallise véritablement dans les deux camps. Reagan n'a jamais été un fanat de l'arme nucléaire, et là, il va quand même rentrer dans un processus où, Gorbatchev aidant, évidemment, on va pouvoir commencer à dénucléariser. Et d'ailleurs, il se trouve, enfin, la fin de la guerre froide, alors bien souvent on considère que c'est la chute du mur de Berlin symboliquement ou l'explosion de l'Union soviétique en 1991, mais c'est plutôt 1987 où là on a effectivement, comme vous l'avez dit, tout à l'heure sur votre question, on a ce premier accord de désarmement, enfin un premier accord de désarmement entre Gorbatchev et Reagan qui marque la fin de la guerre froide. Puisque cette guerre froide se caractérise par la course aux armements, se caractérise par la multiplication des armes nucléaires, et là on a enfin un accord entre les deux qui va apaiser la situation et mettre en avant une collaboration qui va ensuite nous amener sur, c'était pas prévu à la base, mais sur l'explosion de l'URSS et ce nouveau monde qui va s'ouvrir en 1991.
Alors, un nouveau monde où l'arme nucléaire est malgré tout présente. Vous avez deux chapitres intéressants sur cette période post-guerre froide, qui est le cas de l'Inde avec le Cachemire et qui est également le cas de l'Iran. Je voudrais commencer par l'Iran parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup sans forcément toujours comprendre ce qui est en train de se passer. Et notamment, pourquoi l'Iran tient-elle absolument à avoir l'arme nucléaire? Est-ce que c'est une sorte de péché d'orgueil des mollahs qui veulent faire comme leurs voisins? Est-ce que c'est absolument nécessaire pour maintenir leur sécurité? Et finalement, est-ce que ils sont pas en train de se perdre à vouloir développer une technologie qui est extrêmement coûteuse au lieu de développer d'autres aspects de leur pays?
La question est complexe. Alors, le rapport de l'Iran avec le nucléaire est quand même assez ancien, déjà. Alors, effectivement, ça commence par un programme de développement du nucléaire civil, avec le Shah d'Iran et son programme de nucléarisation de l'Iran. Donc, on commence à construire une centrale nucléaire à Bushehr, d'ailleurs, à cette époque. Arrivent les islamistes au pouvoir. À la base, en 1979, ils arrêtent la collaboration avec les Occidentaux, de toute façon, qui ne souhaitent pas travailler avec eux. Mais ils n'ont pas ce projet de poursuivre sur cette voie-là. Arrive la guerre Iran-Irak, où là, l'Irak utilise des armes chimiques et l'ayatollah Khomeini va relancer ce programme nucléaire. Là, on est clairement, a priori, je ne suis pas dans la tête ni de Khomeini ni de Khamenei, mais a priori, on serait ici sur un programme de dissuasion, de protection du régime. La question qui se pose, c'est effectivement quels sont les objectifs. C'est celui de pérenniser sans doute le régime, si tant est qu'il souhaite aller au bout de leur démarche, ce qui n'est pas forcément non plus évident. Donc, armes de dissuasion, contrebalancer la puissance d'Israël, contrebalancer la puissance de l'Arabie Saoudite et se poser en puissance régionale. On retomberait, si dans l'hypothèse, ils développaient véritablement ce programme d'armes nucléaires actuellement, dans cette logique-là. Alors, j'utilise ici le conditionnel parce que les choses sont quand même extrêmement complexes. Les néoconservateurs américains, Israël, sont un certain nombre de politiques français également, mais ou en Arabie Saoudite, sont profondément convaincus que l'Iran souhaite se doter de l'arme nucléaire. Effectivement, l'Iran a un programme nucléaire. Là, c'est évident. En particulier, à partir de... on commence à les deviner à la fin des années 90, et c'est particulièrement le cas à partir de 2002, accentué avec Ahmadinejad, entre 2006 et 2013. Mais si on reprend certains propos de l'ayatollah Khamenei, celui-ci a quand même édicté une fatwa disant que l'islam interdisait en quelque sorte qu'un État se dote de cette arme. Les choses ne sont pas forcément aussi évidente que ça. Et c'est vrai qu'il est très très, très difficile de dégager un peu une ligne de conduite auprès du gouvernement iranien à ce niveau-là. C'est un moyen de pression, c'est évident. Clairement. Un peu sur un peu à la nord-coréenne, d'une certaine manière. C'est un moyen de pression pour obtenir un certain nombre de gains politiques dans la région. Après, on verra ce que nous dira l'avenir. Mais c'est vrai qu'en 2015, lorsque le JCPOA a été signé, l'accord cadre sur l'armement nucléaire et sur ce programme nucléaire, on a eu deux positions, deux positionnements. On a eu des gens qui ont considéré que, c'est très bien, l'Iran, contre l'arrêt des sanctions, contre un développement économique, etc., qui a commencé à se mettre en place en 2015, a mis un terme à son programme nucléaire ou du moins l'a suspendue. Et donc, ça donnerait à penser qu'effectivement, c'est un moyen de négociation pour avoir des avantages économiques. Mais de l'autre côté, vous avez, là, c'est Trump et Netanyahou en particulier, qui ont dit non, non, ou même, voilà, qui ont dit non, non, c'est un mensonge, en fait, ils suspendent juste leur recherche en attendant de bénéficier de ces avantages économiques, et puis quand ils ont tiré tout ce qu'ils pouvaient en tirer, ils relanceront leur programme. Là, on a vraiment deux points de vue. Et c'est quand même, et selon votre positionnement par rapport à ces points de vue, bah, vous allez avoir tel ou tel, développer telle ou telle thèse. C'est pas forcément évident, je pense. Et bah, on verra ce que l'avenir nous dira de toute manière à ce sujet-là.
Donc il y a le cas du Cachemire, où là, on a deux puissances qui ont l'arme nucléaire, le Pakistan et l'Inde. Et donc, il pourrait potentiellement y avoir un conflit, sauf si on est dans une configuration type guerre froide, États-Unis, URSS, et finalement, l'arme nucléaire n'est pas du tout utilisée.
Oui, alors c'est le plus bel exemple, je pense, de dissuasion. Et de l'efficacité de cette dissuasion. Peut-être avec la Corée du Nord, d'ailleurs. De l'efficacité de cette dissuasion, puisque... les deux, effectivement. Alors, l'Inde dispose d'un nucléaire depuis 1974, avec Smiling Buddha, pendant son premier essai nucléaire, un essai pacifique, hein, selon Indira Gandhi. Ensuite, lorsque le Pakistan se rend compte que l'Inde a cette arme nucléaire, bon, voilà, on a une course aux armements en Asie du Sud, dans le sous-continent. Et on voit bien autour de la question du Cachemire que on sait jusqu'où ne pas aller. C'est un petit peu cette idée-là. Et on tombe sur ce paradoxe, hein, de stabilité-instabilité, qui caractérise quand même la guerre froide et ses armements nucléaires, qui dit que, oui, les armes nucléaires permettent d'éviter une confrontation majeure entre les États dotés, ce qui est le cas de l'Inde et du Pakistan, hein, en l'occurrence, mais n'empêche pas une déstabilisation, hein, des conflits limités ou de très basse intensité. Et c'est exactement ce qui se passe au Cachemire. C'est-à-dire que les Pakistanais sont bien souvent, il faut dire ce qu'il y a quand même, les agresseurs au niveau du Cachemire, alors, pour différentes raisons, hein, etc. Enfin, toujours est-il qu'ils revendiquent un territoire qui a été mis sous contrôle de l'Inde et qu'ils vont utiliser du terrorisme, ils vont utiliser ces conflits très très limités pour essayer d'avancer leur pion. Mais ils savent bien que, voilà, on a la gesticulation, l'Inde arme, enfin, mais prépositionne ses armements nucléaires. Le Pakistan fait la même chose en face. On mobilise, en 2002, c'est plusieurs centaines de milliers d'hommes, quand même, 500 000 soldats indiens sont sur la frontière pakistanaise. On a la flotte indienne qui se déploie. Enfin, voilà, on va très, 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 très loin dans la gesticulation et la menace, mais on s'arrête. Après, on a des pressions aussi internationales, mais ni le Pakistan, là encore, on a une limite, on a une ligne rouge, et aucun des deux ne semble, et les Pakistanais encore moins que les Indiens, ne semblent prêts à passer cette ligne rouge. Donc est-ce qu'on se bat pour le Cachemire, mais est-ce qu'on est prêt à aller jusqu'à l'apocalypse nucléaire pour le Cachemire? Donc visiblement, aucun des deux ne semble être prêt à le faire.
Alors un autre point, et ce sera, on va terminer par ça, c'est le cas des accidents nucléaires, et notamment les problèmes avec des porte-avions qui ont été, pardon, pas des porte-avions, des sous-marins qui ont été perdus, ou bien des problèmes avec des avions. Ça, c'est à la fois problématique au niveau de la bombe qui est perdue au fond des océans, mais c'est aussi problématique au niveau de l'information. Les puissances ont essayé de cacher ces incidents et ces accidents parce que il fallait pas montrer d'éléments de faiblesse par rapport aux adversaires.
Oui, 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 et puis aux opposants à l'armement nucléaire également. Mais c'est vrai que, alors ce qu'on note quand même, hein, on a un nombre assez considérable d'accidents au début, hein, les années 50 en particulier, les années 60, où les vecteurs sont quand même essentiellement des bombardiers, et les années 70 aussi, où on a des bombes qui tombent avec les avions qui vont avec. Alors on a pas mal d'informations quand même, malgré tout, hein, sur ce qui se passe aux États-Unis. La France semblerait avoir été relativement épargnée, hein, si ce n'est une affaire de Mirage 4 à la fin des années 60. On a aussi le Triomphant, hein, qui a été bousculé par le Vanguard britannique en 2009. Donc, ce sont des choses quand même relativement plutôt bien documentées, quand même, malgré tout. Dès le départ, c'est quand même difficile de cacher, hein. ce genre de choses. Là où on a beaucoup moins d'informations, par contre, c'est ce qui concerne l'URSS ou la Russie. Donc, on est au courant quand même d'un certain nombre d'incidents concernant des sous-marins. Par exemple, je pense au Kursk, hein, qui est le dernier en date. Alors, par contre, on ne sait strictement rien sur d'éventuels accidents de chute d'avion sur le territoire russe. On ne connaît pas grand-chose non plus sur la Chine. Mais est-ce qu'il s'agit de cacher des choses à l'adversaire? Pas forcément. J'aurais plutôt tendance à penser que si on essaie de cacher quelque chose, c'est pour éviter de donner du moulin à moudre au du moulin à moudre, du blé à moudre, pardon, aux opposants à la bombe, qui dirait, regardez, c'est une arme extrêmement dangereuse, il y a des accidents courants, etc., etc. Ce serait, à mon sens, plus dans ce sens-là. Mais il faut quand même noter que plus le temps passe, enfin, a priori, finalement, sauf preuve du contraire qui me contredirait tout de suite, on a quand même de moins en moins de ces accidents. L'arme est quand même très très sécurisée. Comme je le dis à un moment, hein, je crois qu'il y a peu de moyens technologiques qui ont subi autant d'avanies que ces armes. Elles ont été brûlées, frappées par la foudre, elles sont tombées de centaines de dizaines de kilomètres de haute, enfin voilà, d'altitude, enfin elles ont sombré au fond des océans, enfin voilà. Il y a quand même des mesures de sécurité importantes, hein, qui empêchent des explosions inopinées, en quelque sorte, et heureusement d'ailleurs.
Oui, parce que donc quand les avions sont tombés ou quand ils ont perdu des bombes, celles-ci n'ont pas explosé.
Non. Non, ce qui
Bon.
explose en fait, c'est-à-dire qu'une arme nucléaire est composée à différents composants, dont entre autres de l'explosif du TNT, enfin, ou l'équivalent, hein, des explosifs de très forte puissance qui permettent de déclencher la réaction. Donc, lorsque c'est arrivé, c'est cette partie d'explosif qui a détonné. Alors après, oui, on a des radiations, enfin, on a de la matière fissile qui se propage, mais ça reste heureusement relativement limité quand même.
Bien, merci beaucoup Jean-Marc Lepage d'avoir évoqué avec nous cette histoire de la bombe atomique de Hiroshima à Trump. Donc, votre ouvrage est paru chez Passé Composé. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une autre émission consacrée à la géopolitique.